Moi, je prends le nom de Ismaël au Castel Oriental. J'ai refusé totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Louvain-Massy au Castel Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, même si je suis président, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir choisi Radio Okapi pour vous tenir compagnie en cette journée de mardi 17 août 2010. Vous écoutez Parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage sur les grandes questions d'actualité et les préoccupations de tous les jours. Nous parlons avec vous des conditions d'études dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays, en partant de la province du Maniema où le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a clôturé le vendredi dernier une mission officielle d'inspection d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il se révèle de cette inspection que beaucoup de ces établissements ont des sérieux problèmes de fonctionnement, entre autres, absence de ressources humaines qualifiées, pas d'infrastructure appropriée, pas de bibliothèque ni laboratoire. Et de ces constats, le ministre propose la fermeture de quelques-uns de ces établissements. Le ministre a insisté sur le respect des critères de viabilité qui doit accompagner l'ouverture d'une université. De Kinshasa à Kananga, en passant par le Bas-Congo et la province orientale, le constat est presque le même et la RDC compte jusqu'au mois de juin dernier, d'une manière provisoire, près de 1131 établissements publics et privés d'enseignement supérieur et universitaire. Nous avons des questions pour lancer notre échange de ces jours. Quelle est la situation des conditions dans ces établissements dans votre milieu? Que faire pour améliorer les conditions d'études et surtout rendre disponibles les professeurs dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays? Nous devrions en principe avoir au téléphone dans cette émission le professeur Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, mais en dernière minute, comme il est occupé, nous aurons quelqu'un du ministère qui pourra donner son point de vue par rapport à toutes ces questions. La production de cette émission est assurée par toute l'équipe Marie-Chantal Lumba, Titi Poutou, Nicole Ngata qui est à la coordination, Sylvain Matondo assure la mise en onde aussi des auditeurs. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs par internet ca@radiookapi.net.
Et le téléphone, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315, le numéro par lequel vous pouvez nous joindre pour donner votre point de vue et votre témoignage en ce qui concerne l'amélioration des conditions d'études dans les universités et surtout ce qu'il faut faire pour rendre les professeurs disponibles afin d'améliorer aussi la qualité d'enseignement. Nous avons Katerika qui nous appelle de Butembo dans la province du Nord Kivu. Katerika, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour, je suis Alain, monsieur le journaliste.
Ça serait que vous avez suivi les sujets, la matière qui nous intéresse aujourd'hui. Dites-nous un peu, à Butembo, vous avez quand même d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire sur place.
Oui, nous en avons beaucoup, nous en avons beaucoup. Mais ici à Butembo, le problème qui est là, c'est toujours le problème des professeurs. Vous allez vous rendre compte qu'ici à Butembo, il y a la plupart des assistants qui mènent même des cours. Non. Il faut parler aux assistants, mais il s'agit de quelque chose d'assistant. Ce sont des assistants qui n'avaient même pas distingué. En fait, tout ce qui est terminé à Kinshasa, à Kisangani, ou bien à Butembo, ou bien à Lubumbashi, maintenant, ils viennent ici pour être assistants.
Et Katerika, est-ce que vous avez aussi des universités publiques sur place, là, disons, les universités publiques, vous en avez à Butembo?
Oui, là où j'ai étudié l'université, on parle de l'université officielle de Rougeau.
Et est-ce que vous n'avez pas de professeurs dans cette université?
Quand chez nous, nous allons avoir au moins 8 professeurs permanents, mais si nous avons beaucoup de facultés, ces professeurs-là ne suffisent pas pour toutes les facultés qui sont organisées à l'UER. En bas, ça va peut-être recours aux professeurs qui nous viennent de différents, ceux qui sont en biologie, et ceux qui sont en relation internationale, peut-être, bon, ils ont des professeurs qui viennent de Kinshasa, ou de Lubumbashi.
Et qu'est-ce que vous proposez, Katerika, pour vous améliorer quand même la qualité des cours à l'université, là où vous étudiez d'une manière générale à Butembo?
Normalement, le gouvernement, n'est-ce pas, doit avoir une politique de formation des professeurs. Puisqu'il y a beaucoup d'étudiants qui terminent, avec succès, mais malheureusement, ils n'ont pas accès au cours d'études. Peut-être que le gouvernement pourra chercher le moyen de promouvoir les gens qui Je pense que tout ça allait faire le troisième site, même quand on chez nous, le forum à Kisangani, on a déjà ça.
Merci, Kasserika. Vous proposez que le gouvernement puisse disponibiliser le troisième cycle pour ceux-là qui terminent, hein, afin de le permettre de pouvoir terminer, revenir aussi engager les autres. On apprécie à Kinshasa. Dini est en ligne. Hein. Dini, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi Kasserika qui est à Butembo, ici dans la ville de Kinshasa. Quand on regarde la ville, d'ailleurs, provisoire, on a dit plus ou moins 192 institutions d'enseignement supérieur public et privé d'une manière confondue. Et à l'intérieur, il se pose un véritable problème de manque d'absence des professeurs. Mais ici, à Kinshasa, quel est le constat que vous faites dans la capitale?
En tout cas, je m'excuse, je n'ai pas pu bien saisir la question, puisque j'étais un peu distrait, un peu en ligne avec un autre correspondant.
Voilà, ce que vous allez faire pour le moment, Dini, c'est de vous écarter un tout petit peu de l'endroit où vous êtes parce qu'il y a des bruits. Et je vous pose maintenant la question. Nous parlons de la viabilité des institutions d'enseignement supérieur et universitaire, surtout le volet disponibilisation des professeurs. Vous avez suivi à l'intérieur, comme l'a dit notre ami de Butembo, qui n'ont pas de professeurs là-bas, ce sont les assistants qui sont titulaires des cours. Hein. Ils plaident pour que le gouvernement disponibilise les professeurs. Mais ici, à Kinshasa, quel est le constat que vous faites? Et je vous ai dit que nous en avons à peu près 192 hein, institutions publiques et privées d'une manière confondue.
C'est vraiment une bonne question, mais moi je vois que je trouve bien que non. Le gouvernement qui doit avoir quand même à répondre à cette question-là, est-ce que c'est à lui qui revient quand même de prendre des dispositions? Donc aujourd'hui, nous avons quand même plusieurs institutions universitaires, et comme le ministre lui-même avait fait le constat. Alors, on voit que aujourd'hui, même la façon qu'on donne les enseignements dans ces institutions-là, ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait, ce n'est pas la qualité qu'on peut faire pour le Congo, en plein 21e siècle. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas la
qualité
de façon qui est
voilà, Dimi, là on a le problème de qualité des lignes, hein, mais le ministre a séjourné à Kindu au Maniema où il pense qu'il y a des universités qui ne sont pas viables, qui ne peuvent pas disposer d'une ressource humaine qui est qualifiée, doit en principe être fermée. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut fermer ou bien vous proposer autre chose qui peut être fait pour améliorer quand même la qualité d'enseignement?
Bon, fermer, c'est trop dur, parce que si on ferme aujourd'hui, avec ce que vous dites là, où est-ce qu'ils vont aller prendre leurs études? Mais c'est au gouvernement, le ministre en personne, de lui-même, de proposer encore une autre proposition. Pour que ces gens-là, qu'on puisse améliorer la qualité qu'on cherche.
Voilà. Merci, Dimi. Vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale, bien sûr. Hein. Vous êtes très nombreux sur la ligne, je crois, à vouloir intervenir. Comme ceux qui nous ont écrit les mails, nous allons vous prendre tout de suite. Appelez-nous au 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Dieudonné Kazumba nous a écrit des Mbujimayi au Kasaï oriental. Il dit ceci, je pense que le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire doit mettre à la disposition des chefs des travaux et assistants œuvrant dans les institutions d'enseignement supérieur et universitaire des moyens pour leur formation afin de pallier à ces problèmes des professeurs qui, pour la plupart, sont en train de vieillir. Dans le temps, on donnait la prime de recherche. Pourquoi pas aujourd'hui donner peut-être une prime de formation en lieu et place des bourses dont on entend plus le ministère en parler. Imourani Sapro de Kindu dit ceci, je voudrais d'abord vous dire que les conditions telles que le ministre de l'enseignement supérieur universitaire est en train d'exiger aux institutions supérieures universitaires ici à Kindu, sauf l'université de Kindu qui en remplit en moitié, toutes les autres institutions sont des brebis galeuses que le ministre doit frapper fort. Aucune institution parmi elles n'a ses propres bâtiments, aucune institution parmi elles n'a plus d'un professeur, certains cours sont confiés aux assistants n'étant pas à la hauteur et ceci quand les professeurs ne viennent pas d'ailleurs, Kinshasa Goma Lumbashi Kisangani, que personne ne flatte les professeurs Machoko Mamba qui travaillent dans la transparence avec la rigueur voulue. Ça c'est l'auditeur de Kindu. En ligne, c'est Steve qui est en Bandaka. Steve, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi les uns et les autres. Dites-nous un peu le constat par rapport à la disponibilité des professeurs dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire à Bandaka.
Ah oui, ici à Bandaka, la situation est telle que l'est à travers toute la République. Mais je vais d'abord stigmatiser pour ce qui se passe réellement chez nous l'université de Mbandaka. À l'université de Mbandaka, je dirais que c'est une mosaïque d'assistants. Une mosaïque d'assistants et des chefs de travaux. Il n'y a même pas assez de chefs de travaux. Il n'y a que des assistants. Je prends par exemple la faculté de droit. Dans cette faculté, je vous dis franchement, il n'y a que des assistants qui tiennent des grands cours. Des grands cours, s'il vous plaît. Des assistants qui n'ont même pas été. Qui n'ont même pas passé, mais qui tiennent des grands cours. Je pars dans la faculté de l'économie, par exemple. Il y a au moins deux professeurs pour toute la faculté, pour les premiers cycles. Je pars dans la faculté de médecine, là, chez nous, vraiment, nous recevons des professeurs de l'Ukraine qui viennent vraiment sans problème. Là, en disant que nous n'avons pas de professeurs sur place ici, mais nous avons des professeurs qui viennent de l'Ukraine et qui nous assurent les cours comme il se doit. Normalement, moi, j'ai bien ici. Les professeurs, monsieur Machiako, quand ils sont chargés à côté de son professeur, c'est une bonne chose. Mais il doit traiter la maladie en les prévoyant et non tenir sur les effets. Donc, si on se pose la question, le budget 2006, c'est à combien pour le secteur de l'éducation nationale? Je dirais au chef de l'État que le chantier de l'éducation est le plus mauvais de la jeunesse, puisque jusqu'à la preuve du contraire, nous voyons sur le marché, nous voyons à travers la ville de Kinshasa, des grands travaux qui se font. Là, c'est autre, là, c'est bien, mais l'éducation qui constitue la cuisine des personnels qualifiés pour le développement d'un pays reste critique. Nous demandons au gouvernement de ne plus nous flatter. Ça, c'est une flatterie. Puisque, au lieu, comment on peut dénoter une éducation comme l'université de Mbandaka de s'approprier d'une bibliothèque moderne? Combien coûte une bibliothèque moderne? Nous avons des agences du système des Nations Unies, par exemple l'UNESCO, qui travaillent au profit des Congolais. Pourquoi pas imposer à l'UNESCO de faire une bonne chose pour que l'éducation de la région du Congo soit en bon train, au lieu de nous imposer des systèmes qui ne sont pas fiables?
Voilà. En fait, le gouvernement ne va pas imposer à l'UNESCO de se donner à voter à l'université. Sève, on y va doucement. L'UNESCO, c'est un partenaire, mais c'est pas au gouvernement d'imposer à l'UNESCO de créer une bibliothèque. Mais dis-moi, en résumé, on a suivi votre inquiétude, c'est qu'il faut qu'on puisse avoir beaucoup de professeurs à l'université de Mbandaka. Merci de ce témoignage. J'espère que vous êtes en Mbandaka dans la province de l'Équateur. Nous avons en ligne d'ailleurs M. Étienne Bouchambo, qui est le conseiller juridique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, avec qui nous allons d'ailleurs partager toutes ces inquiétudes tout le long de cette émission. Merci beaucoup, Serge, et les autres qui ont besoin d'appeler, rappelez-nous au 081-890-1315.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Étienne Bouchabo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en ligne pour commenter avec les auditeurs des Radio Capi ce sujet autour de l'amélioration des conditions d'études dans les universités. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a séjourné à Kindu en fin de semaine. Le constat qui se dégage de sa visite, c'est qu'il y a beaucoup de difficultés pour les établissements d'enseignement supérieur et universitaire à travers le pays pour fonctionner. Il y a un problème d'absence de professeurs qui se posent, les infrastructures, les laboratoires, tous ces problèmes qui se posent de part et d'autre. Est-ce que vous avez l'impression que ces problèmes se posent pour pour une province, ou bien c'est d'une manière globale que ces problèmes se présentent ici à travers le pays?
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste, de m'avoir associé à ce débat qui tend à l'amélioration des conditions de travail dans nos universités et instituts supérieurs. Et j'ai suivi tout à l'heure les préoccupations de l'auditeur de Mbandaka. Et tel que vous le dites, ça se justifie dans la mesure où, effectivement, dès l'arrivée de son Excellence, monsieur le ministre Machiako, à la tête de l'enseignement supérieur, il a déclaré officiellement devant les députés en montrant que l'enseignement supérieur était malade. Il était malade, non pas seulement en ce qui concerne les infrastructures, mais également et surtout aussi en ce qui concerne le corps enseignant. Quand on voit le nombre, le poissonnement d'établissements d'enseignement supérieur par rapport au nombre d'enseignants qu'on a, on se demande comment on pouvait faire pour arriver à un enseignement de qualité partout. Et voilà pourquoi, dès son arrivée, il a obtenu du gouvernement les audits et les audits de viabilité. Et ce que nous sommes en train de faire, nous, c'est-à-dire nous qui travaillons à l'enseignement supérieur, alors, c'est pour arriver à vérifier, à contrôler le nombre de profs qu'il y a dans chaque établissement, les conditions de travail par rapport aux normes qui existent dans le monde et puis par rapport aux normes exigées par la loi congolaise.
Mmh.
Donc, c'est un problème très préoccupant et c'est pour cela que le ministre ne cesse de revenir à ce sujet.
Voilà.
Et concernant justement la solution, parce que c'est ça, le constat est celui-là. Mais maintenant, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement, il fait des efforts. Quels sont ces efforts? D'abord, au niveau du budget, le ministre a proposé une prime qu'on devrait donner aux chefs de travaux, à tous ceux qui préparent leur thèse, de manière à ce que la relève soit attirée. Et dans les calculs, il a estimé qu'en faisant le total d'établissements avec tout ce qu'on a comme besoin, il faut plus ou moins 2,500 par an pour qu'on arrive à combler le vide. Donc, le ministre est en train de faire, le ministre, c'est-à-dire le gouvernement, est en train de faire des efforts de ce côté-là.
Mmh, voilà.
Pourquoi les missions de contrôle sont disséminées à travers la République pour récolter les données sur le terrain, partout où il y a un établissement d'enseignement supérieur et universitaire.
Voilà, monsieur Thiel Bouchabo, si on fait, bon, en fait, avec les chiffres que je possède d'une manière approximative, jusqu'au mois de juin, je crois, de 2010, on pense que la RDC peut avoir à peu près 1000, d'une manière confondue, privée et publique, au moins 1000 établissements. Est-ce que déjà dans les données qui sont récoltées sur le terrain, vous avez déjà une idée de combien de professeurs on a? Vous avez déjà une idée au niveau du ministère?
Au niveau du ministère, quand on parle de professeurs, jusqu'à présent, on ne compte que les publics, ceux qui sont nommés. Et à ce niveau, on en était à 1800.
1800 professeurs, hein?
Oui, on en était à 1800. Voilà. Mais pour corriger justement cette entorse, ce qui fait que le professeur, c'est celui qui donne cours dans un établissement public. Or, la législation et la Constitution reconnaissent également les établissements privés.
Mmh.
Et c'est ainsi qu'on a créé, on a donné cette possibilité aussi aux établissements privés de faire homologuer les grades de leurs professeurs.
Professeurs, voilà.
Oui.
Combien.
Et voilà. D'ici là, on le saura à partir de cette homologation et on saura comment le nombre de professeurs qui assurent le cours dans les établissements privés, c'est-à-dire les gens qui sont qualifiés, qui ont défendu leur thèse et qui peuvent être appelés professeurs.
Voilà. On vous garde en ligne, monsieur Étienne Bouchabo, parce qu'il y a aussi Guélor qui nous appelle de Kananga, les autres auditeurs qui ont aussi peut-être une question à poser, un point de vue à émettre. Nous serons avec vous tout au long de cette émission. Guélor, vous êtes en ligne, bonjour. Guélor, vous êtes en ligne?
Oui, bonjour.
Vous êtes à Kananga, au Kassai Occidental, c'est ça?
Oui, merci.
Voilà. Alors, vous avez suivi, le monsieur Étienne Bouchabo, le conseiller juridique du ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le constat est réel, les difficultés sont là. Et à Kananga, par exemple, le fait que, comme à Mbandaka, on n'a pas assez de professeurs, est-ce que vous pensez que ça influe sur la qualité de l'enseignement quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui à Kananga, au Kassai Occidental?
Oui, bon, selon ce qui se passe, je vais poser une question que je vais poser à celui qui vient de parler tout de suite.
Mmh.
Il a soulevé un cas là, il dit, dans le budget creusé par l'État, il y a un certain montant là réservé pour le professeur ou les chefs de travaux qui veulent un peu, qui ont leur thèse, qui veulent défendre ça. Mais je me demande, c'est là, c'est pour les chefs de travaux et des professeurs reconnus ou bien c'est pour tout le monde? Car nous avons des professeurs des cas que nous avons ici à Kananga, je ne vais pas citer les noms, des professeurs qui ont l'air d'être il y a déjà 3 ans, 4 ans, qui n'ont pas les moyens de fondre ça. Mais si l'État a déjà prévu ça dans le budget, où ça fait, et ça part, ou bien s'il y a les professeurs, les chefs de travaux réglés pour ça, c'est la première question que je lui pose. Alors la deuxième question que je lui dis, qu'est-ce que l'État prévoit aussi pour contrôler, parce qu'il faut qu'il montre quand même un comité ou une commission des contrôles dans toutes les institutions. Comment les institutions travaillent? une institution a combien d'assistants, a combien de professeurs. Cela peut l'aider aussi à faire plus. Qui connaissent un seulement sur 80 ans, par exemple à l'UQAM, il y a autant de professeurs, autant de chefs de travaux, ça n'ira pas de l'avant. Mais il faut monter une commission là, des poursuites, ou bien de contrôler dans telle institution, il y a quoi.
Voilà.
Et ça, je crois que ça ira de l'avant.
Oui, bien, cette question, je pense que l'invité l'avait déjà dit, Gaylord, au début, hein, il a dit qu'il y a déjà les équipes qui travaillent sur le terrain pour la récolte des données. On a même donné quelques chiffres juste pour ce qui est public, hein, mais le travail continue pour centraliser tous les résultats. Merci, Gaylord. Ben, la première question qui concerne s'il y a dans le budget de l'État le montant prévu pour soutenir les chefs des travaux, les professeurs qui doivent défendre leur thèse. M. Kim Bouchaboura, le temps de vous répondre à cette question, mais nous prenons aussi Serge qui est à Lubumbashi, au Katanga. Serge, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes à Lubumbashi au Katanga. D'ailleurs, l'auditeur de Mandaka, ou celui de Butembo, a dit que chez eux, ils attendent plus les professeurs qui doivent venir à Lubumbashi pour venir pour soutenir aussi, de venir enseigner là-bas. Est-ce qu'à Lubumbashi, se pose un problème, comme on l'a vu ailleurs, surtout en ce qui concerne l'absence des professeurs?
Oui, monsieur le journaliste, c'est presque un fléau dans toute la République. Mais ici, au moins, Lubumbashi, ça va un peu. Ça va dans d'autres facultés, par exemple, chez moi, en médecine, ça va, on a des professeurs. Mais dans d'autres facultés, je vous dis, c'est catastrophique. Alors, je ne sais pas. Par exemple, ici, au Katanga, je parle du Katanga en général. Les extensions. Toutes les expansions du Katanga, je vous dis qu'il n'y a que des assistants, presque dans toutes les expansions. Alors que ces étudiants-là qui viennent de l'expansion, ils prennent le cours comme les autres, ils sont obligés de passer les cours de rattrapage, de passer presque tous les cours de rattrapage ici. Alors, moi, j'aimerais mieux savoir que le représentant du ministre puisse vous dire quelle est la stratégie du ministre, la stratégie de recrutement des chefs de travail, des chefs de assistants. Parce que nous voyons qu'il y a des seuls assistants-là qui se prétendent être assistants et qui n'ont même pas distingué à la faculté. Alors, quel est ce critère de retenir dans notre élément les assistants, les chefs de travaux et tous ces gens-là? Bon, moi, je ne pense pas que mettre, en place le doctorat ici, je ne trouve pas que c'est ça qui va changer beaucoup d'histoire. La stratégie du ministère vis-à-vis de l'enseignement supérieur, surtout concernant les assistants et les chefs de travaux.
Merci Serge. À Bounia, c'est Claude qui est en ligne. Claude, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez suivi les questions posées par Serge de Lubumbashi. À vous, quelle est votre préoccupation par rapport à ce qu'on a dit, le problème de l'amélioration des conditions d'études dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire?
Oui, mon problème se pose au niveau des personnels et quand les universités agissent. On constate avec le professeur qu'il n'y a que les universités ou les institutions publiques qui essayent de travailler, mais malheureusement, 100 personnes qualifiées.
Claude, apparemment, votre ligne a assez de problèmes, hein, mais du moins, vous plaignez que dans les universités, il y a des gens qui travaillent, qui enseignent, mais qui ne sont pas qualifiés. Je crois que la ligne ne permet pas vraiment assez d'avancer. Nous allons remettre la parole à M. Étienne Bouchabot. Vous avez suivi quelques auditeurs, là. Il y a Gaylord de Kananga qui pose une question de savoir si au niveau du budget de l'État, c'est prévu comme ça, qu'il y ait un montant pour soutenir les chefs des travaux et les professeurs, en principe, qui doivent défendre leur thèse. Parce que, il s'est dit à Kananga, il y a des gens qui ont depuis 3 ans, mais qui ne savent où aller, hein, ils n'ont pas de moyens pour aller défendre leur thèse.
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi bien là. D'abord, concernant la prime. La prime, c'est pour tout celui qui est chef des travaux et qui prépare déjà sa thèse. C'est pour pousser aux chefs des travaux de pouvoir préparer leur thèse et le soutenir le plus vite. Parce que la préparation d'une thèse demande des moyens.
Des moyens, oui.
De quels moyens nos chefs des travaux aujourd'hui n'ont pas? Voilà pourquoi le ministre a estimé que
puisque nous devons préparer la relève. Mais la relève, on le prépare comment? Hier, c'était les bourses venant de l'extérieur. La plupart des professeurs que nous avons aujourd'hui sont allés défendre leur thèse pour la plupart à l'extérieur. Soit ici, mais avec l'aide de l'extérieur. Mais c'est le gouvernement. Voilà pourquoi on a proposé cette prime pour les chefs de travaux. Mais on ne va pas donner ça comme d'une manière générale, dans la mesure où vous n'avez même pas un sujet de thèse.
Mm-hmm.
Hein? On va donner à ceux-là qui ont un sujet de thèse, c'est chaque établissement qui va informer, qui va ici pour montrer qu'il y a tel chef de travaux qui ont leur sujet de thèse avec un directeur de thèse bien connu. Pour ceux-là, on les enregistre et ils auront cette bourse-là.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm.
Bon, concernant la commission de contrôle. La commission de contrôle, pour voir chaque établissement, c'est ce que nous faisons exactement. Aujourd'hui, où nous vous parlons, moi qui vous parle, nous rentrons de Bandundu. Mm-hmm. Nous rentrons de Bandundu depuis jeudi. Et la plupart des amis sont encore dans l'émission. C'était la province du Katanga et la province du Bandundu.
Okay.
Alors, on va, je vous ai dit, c'est et établissement par établissement, là où existe un établissement d'enseignement supérieur, il y a au moins deux personnes pour aller contrôler. Le contrôle consiste en quoi? Ce n'est pas seulement le professeur, c'est également les infrastructures. Comment se présentent les infrastructures? Les équipements, les laboratoires, le matériel didactique, le nombre du personnel, les bureaux dans lesquels travaille l'administration, les étudiants, les conditions d'inscription des étudiants.
Voilà, toutes ces conditions-là, oui.
Voilà, on a respecté, on a regardé tout ça et nous faisons le rapport.
Voilà.
À la suite de tout ce rapport, le ministre en publie. C'est ça une décision. Vous avez suivi en ce qui concerne la ville de Kinshasa, ce qui s'est passé. Et ça sera la même chose pour le reste des provinces.
Voilà. Monsieur Mbouchabo, mais il y a aussi Serge de Lumbashi. Hein. Lui, ses deux préoccupations, il s'est plaint un peu des extensions hein, de l'université, par exemple, de Lumbashi. Il dit il ne sait pas comment se définit la politique d'extension des universités, ce qui pose un véritable aussi problème hein, pour toutes ces extensions. Mais il a une préoccupation aussi de savoir comment vous procédez pour recruter après tous les assistants et les chefs des travaux. Quels sont les critères? Parce que lui, ceux avec qui, en fait, avec qui il est, il se demande comment ils ont été recrutés. Hein. Voilà un peu l'inquiétude aussi.
Justement, j'ai répondu d'abord à notre ami du Canada. Quant à Serge, Serge a raison. C'est pour cela que le ministre, dès son arrivée, après le constat fait, l'état de lieu, il a pris une note circulaire pendant la création des extensions, de nouvelles extensions et de nouvelles filières. La circulaire existe. Et c'était pour permettre à ce qu'on fasse ces contrôles. C'est à travers ces contrôles qu'on voit la réalité des faits. Donc, Serge a réellement raison. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on fait ces contrôles, à partir de ce moment, les décisions tomberont. Les décisions tomberont. Quant à la stratégie, mais la stratégie, vous voyez déjà ce que nous sommes en train de faire. Une bonne stratégie, c'est connaître d'abord les lieux. Et la connaissance des lieux, c'est ça le contrôle que nous sommes en train de faire. Pour arriver à ce que nous puissions aller vers l'excellence pour l'enseignement supérieur. Et pour cela, il faut mettre tout le monde sur un bon départ, en respectant les critères de viabilité, les critères sur le plan académique, les critères sur le plan administratif, les critères sur le plan des infrastructures, les critères sur le plan des équipements, les critères sur le plan du personnel, même administratif. Parce que l'université ne peut pas avoir comme personnel rien que les D4 ou bien les D6 raisons. Il faut
un personnel qualifié au niveau de l'administration. Parce que l'administration, c'est un support essentiel pour le fonctionnement de l'université.
Voilà. Et sa dernière préoccupation.
Pour le fonctionnement des étudiants et les professeurs.
Oui.
Pardon, les
recrutements des assistants et des chefs d'école.
C'est vrai, il y a eu des abus dans le temps, mais aujourd'hui, justement, ce contrôle est à ce niveau-là. De manière à ce que le ministre avait pris déjà une note circulaire demandant à ce que tous les assistants qui ont déjà dépassé leur mandat devaient être remerciés. Parce que ce sont des fonctions de à mandat. C'est une fois deux ans, et puis deux ans encore, après, si vous ne publiez pas, eh bien, monsieur, on doit vous mettre à la porte.
Voilà.
Et c'est ça qui est appliqué. Mais quel est le critère d'abord pour être assistant? La loi est là. Il faut distinguer, avoir une distinction quand vous terminez. Mais si, en dernière année, vous n'avez pas distingué, mais on va voir si votre cursus, vous avez eu au moins à distinguer au moins une fois dans le cursus, pendant les 5 ans de vos études. Mais alors, attention, il faut encore possible que maintenant, en dernière année, vous ayez réussi avec au moins plus de 65%. À ce moment-là, on peut vous réfléchir comme assistant.
Voilà.
Et quand nous faisons ce contrôle, nous essayons de voir si ceux qui ont été recrutés l'ont été dans ces conditions-là. S'ils n'ont pas été, les conditions n'ont pas été respectées, ils sont à remercier. Alors, pour Bougna, la non-qualification, oui, c'est le même problème qu'on constate partout. Voilà pourquoi l'aide du ministre est là, à travers le contrôle, à travers les rapports. Quand vous lisez les institutions académiques, la 012, pour le moment, qui donne une directive sur la rentrée académique 2010-2011. On dirait que c'est toute une bible aujourd'hui.
Voilà.
Attention que dans le ministre, pour arriver à l'excellence, pour arriver à remonter le niveau des enseignements dans notre université.
Voilà. Monsieur Tilbouchabon, on vous garde en ligne. Bruno est en Boujmaï, Alphonse est en Matadi dans la province du Bas-Congo. On va leur donner la parole tout de suite.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation? Radio Okapi réunit des spécialistes compétents dans Okapi Service. C'est une équipe de nouveaux invités familiers entre eux et vous. Santé, emploi, conseil au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Okapi Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Okapi Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Et parole aux auditeurs, vous donne la parole, s'il faudrait le dire ainsi, pour ensemble raisonner sur l'amélioration des conditions d'études dans les établissements d'enseignement supérieur et universitaire, ce qu'il faut faire pour rendre disponibles les professeurs et améliorer la qualité de l'enseignement. Nous avons en ligne M. Étienne Bouchabot, conseiller juridique du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous aussi, soyez nombreux à nous envoyer vos réactions par mail à l'adresse pa@radiocapi.net. Bruno, bonjour.
Et bonjour, Radio Capi.
Vous êtes en Boujmaï, au Kassai oriental. Vous avez suivi les plaintes des uns et des autres. Si on doit retracer les tableaux, ça va être presque les mêmes préoccupations, les mêmes problèmes. On n'a pas assez de professeurs, on a des assistants. Et quelles sont les propositions, vous, par exemple, en Boujmaï? Qu'est-ce que vous proposez pour que la qualité de l'enseignement puisse améliorer et surtout que les professeurs soient quand même rendus disponibles en Boujmaï?
Oui, ici en Boujmaï, on a un problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas de professeurs. Plus souvent, je pense, dans la faculté de médecine, dans notre université, nous terminons les programmes de cours en retard. On commence l'année au même moment que les autres. Jusqu'à aujourd'hui, toutes les facultés sont déjà délibérées. En médecine, on n'a pas encore fini même la session. Alors, on n'a pas de professeurs, nous dépendons de Lubumbashi ou de Kinshasa. C'est le problème qui nous préoccupe beaucoup plus. Il faut, pour que les professeurs viennent, il faut que nous puissions donner 3 $. Donc, c'est pas ce qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'année prochaine? Qu'est-ce que le gouvernement peut préconiser pour nous?
Alors, c'est que votre inquiétude, c'est savoir qu'est-ce qu'en principe le gouvernement doit faire pour rendre disponibles les professeurs en Boujmaï. Merci, Bruno. La question est bien notée. Alphonse, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour.
Alphonse, on vous écoute.
Oui, moi je suis à Matadi. Je voulais dire juste que dans mon mémoire de licence, j'ai parlé du personnel académique.
Mmh.
Alors, le problème, il est général, mais quand on l'aborde, le ministre, il a beaucoup, beaucoup de bonnes intentions, mais il est peu pratique. Parce que quand vous regardez l'université de Kinshasa, qui a la plus grande proportion d'enseignants, elle aussi a des problèmes. Donc, si déjà l'université de Kinshasa a des problèmes, on dit que c'est là où il y a plus de professeurs, il y a des problèmes de carence, mais aussi, ils sont très avancés en âge. Alors, il faut être concret, parce que c'est un problème pratique. Il ne faut pas seulement être théorique. Il faut donner ce moyen, parce qu'on s'en prend aux assistants. Mais ces jeunes gens-là, ils sont prêts à progresser, mais s'ils sont limités par les moyens. Ces vieux professeurs, même lui-même le ministre, ils ont été des boursiers. Et les bourses arrivent, mais à qui on donne ces bourses? Donc il faut être pratique, parce que si on pose la question à celui qui est l'invité, depuis que le ministre est là, combien de bourses ils ont octroyées dans les provinces et avec aux assistants pour qu'ils aillent étudier, pour que demain qu'ils deviennent des professeurs.
Mm-hmm.
Donc il faut mettre les moyens à la disposition de ces assistants, parce que je signale en passant que je suis assistant aussi. Alors, il faut mettre les moyens à ces assistants qui sont prêts à progresser. Ils ont bel et bien envie de progresser. Mais il faut que l'État mette les moyens. Parce qu'on ne peut pas progresser seulement comme ça d'emblée. Il se débrouille, tout ça. Il y a même des gens ici à Matadi, ils quittent Matadi, et ils viennent à Kinshasa pour suivre les cours d'aide. Mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices.
Mm-hmm.
Ils quittent ici peut-être jeudi avec leurs propres moyens, et ils arrivent à l'IPEN ou à l'INITIL. Samedi et dimanche, ils suivent les cours, et puis ils doivent encore revenir. Mais ils prennent d'énormes risques, d'abord les transports, parce que c'est quand même plus de 300 km, Matadi Kinshasa.
Mm-hmm.
Et puis suivre les cours dans ces conditions-là, c'est quand même difficile aussi de donner le meilleur de soi-même.
Mm-hmm.
Mais il faut que le ministre cesse d'être théorique, il faut être pratique, il faut trouver les moyens, il faut prendre des jeunes gens, les assistants, qui veulent bien faire carrière, il faut leur donner la possibilité d'aller étudier, faire les dégâts et puis défendre leur thèse. Ils vont revenir renforcer ici au pays. Parce que si rien n'est fait, dans les années qui suivent, nous serons colonisés. Donc nous serons dépendants sur le plan de l'enseignement supérieur. Donc nous allons importer des enseignants.
Merci Alphonse, vous êtes à Matadi, nous rentrons ici à Kinshasa. Nous avons en ligne le professeur Massiala Massola. Professeur, bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous parlons dans cette émission de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. À ce niveau du débat, nous proposons ce qu'on peut faire pour améliorer cette qualité, mais plus avec l'accent sur la disponibilité des professeurs. On a fait le tour presque du pays, c'est partout, dans tous les établissements, les gens se plaignent qu'il n'y a pas de professeurs. Et alors, quand on voit qu'il n'y a pas de professeurs directement, la qualité de l'enseignement pose assez de problèmes, professeur. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est quoi? Pour vraiment qu'on puisse avoir assez de professeurs au pays et qu'on puisse combler les carences qu'on a relevées ça et là à travers le pays dans les différents établissements.
Oui, il y a plusieurs années écoulées, on a pu pratiquement penser à la formation des formateurs.
Mm-hmm.
On a recruté des assistants, on a recruté de personnalités qui étaient prêtes à rester dans l'enseignement, mais il y a un problème effectivement de relève. Quand j'étais à l'enseignement supérieur universitaire comme vice-ministre, chargé du secteur, j'avais constaté que la moyenne d'âge des professeurs était de 54 ans. Il fallait donc le renouveler. Je dirais les capacités, les études supérieures se sont doublées entre temps, même pas doublées, pas doublées, sont très nombreux. Il faut donc un corps professoral, un corps scientifique assez important, mais les possibilités de les former étaient devenues minces.
Mm-hmm.
Minces, parce que pour former un professeur, il faut avoir des structures, avoir des professeurs qui sont disponibles, avoir des bibliothèques, avoir des ressources nécessaires pour mettre à l'aise ceux qui veulent accéder à ce corps du savoir, le corps professoral, le corps scientifique. Au niveau de l'enseignement supérieur, je suis secrétaire permanent. nous avons constaté qu'il fallait pas seulement envoyer des jeunes à l'étranger, mais on peut le finir ici au niveau de DS, au niveau de DA, et même au niveau de la thèse avec un séjour à l'étranger de lecture.
Mm-hmm.
Pour qu'ils voient qu'il y a d'autres façons de travailler et prendre le contact avec des futurs collègues de plus tard. Donc, nous avons maintenant, pour la faculté de théologie, par exemple, à Kinshasa, à l'IPC, un corps professoral complet. Et pour le droit, nous avons mis en place un système de formation au niveau de CDA. Et tous les enseignements du corps du transport commun sont terminés. On va commencer le cours de spécialisation. Donc, dans quelques années, nous pourrions avoir des professeurs attitrés de l'institution.
Voilà.
Mais en même temps, je suis le dossier.
Mm-hmm.
Ça, je suis le dossier. Je peux parler anglais avec les Allemands. Et nous avons reparti nos universités. Il y en a 48 protestants sur l'ensemble du territoire national. En poule, nous avons le poule du centre, nous avons le poule de l'ouest, nous avons le poule de l'est, nous avons le poule de nord-est. Donc toute la province orientale, c'est un poule. Et nous avons décidé de stabiliser les professeurs au sein de leur poule. Et chaque année, ils ont l'obligation de choisir parmi les assistants ou les chefs de travaux ceux qui peuvent bénéficier d'une bourse qui est disponible pour aller à Kinshasa, pour rester dans le pool où nous allons organiser aussi ce programme de troisième cycle, parce que c'est important.
Mmh,
voilà. Il faut que ce soit un troisième cycle pour un troisième cycle. Ça doit être un troisième cycle correctement pensé, correctement structuré et correctement animé.
Voilà,
et là où il y a des faiblesses, nous prenons les chefs de travaux, les assistants, les amis, là où il y a un corps solide, comme Kinshasa, et je pense plus tard Bounia, hein, plus tard Uéa à Bamako.
Voilà. Pour cela, vous avez bien décrit vraiment l'organisation dans votre structure, mais en fait, quand on voit la situation, comme un auditeur nous a écrit, hein, il dit que la grande difficulté vient aussi du fait que les professeurs qui sont en train de travailler et qui ne sont pas beaucoup motivés, aujourd'hui sont engagés dans beaucoup d'autres activités. Il y en a qui sont qui combinent le tout, hein, et dans le cabinet de ministres et comme conseillers, il y en a qui sont comme experts, qui voyagent aussi beaucoup, et cela pose aussi un véritable problème de leur disponibilité, même au niveau des institutions dans lesquelles ils sont déjà. Mais eu égard à tous ces problèmes, la disponibilisation de moyens pour former les autres, mais aussi la prise en charge de ceux qui sont déjà là, pour permettre à ceux qui encadrent aussi les autres. Par où faudrait-il commencer aujourd'hui pour lever quand même une solution ?
Des jeunes formations à des personnes qui ne sont pas stables et qui ne sont même plus certaines de ce qu'ils représentent comme valeur scientifique. Et c'est pourquoi il faut commencer par recenser là où les enseignants sont vraiment dans leur poule et qui sont capables d'accompagner ceux qui veulent devenir comme eux. Alors si la situation est assainie et que nous avons des bibliothèques, nous avons des moyens pour soutenir l'effort financier et des apprenants et de ceux qui l'accompagnent, nous pouvons commencer ce programme. Il n'y a pas longtemps qu'on a commencé en droit parce que nous n'avions pas encore réuni les moyens nécessaires. Il ne faut pas former des docteurs de faille, pas des docteurs de faille, ça doit être des docteurs, des vrais docteurs,
voilà,
qui sont spécialistes dans leur corps du savoir. Quand c'est un juriste constitutionnel ou un juriste, c'est pas de droit, c'est de droit maritime, je ne sais pas, il faut qu'il y ait une spécialiste de ce domaine parmi le corps des formateurs.
Voilà.
Mais nous ne pouvons pas commencer. J'étais invité à certains endroits où on essaie de former, mais j'ai regardé, j'ai dit non, je ne peux pas laisser mon. Parce que ce sera
des facteurs de paille, et pas des docteurs de paille.
Voilà, merci.
C'est un corps d'élite qui doit être réellement un corps d'élite pour les formateurs.
Donc, voilà. Merci, merci beaucoup, professeur Machala Massola. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci de cette contribution, de cette expérience dans l'émission Parole aux auditeurs. Sylvain, vous êtes à Bounia, on va vous accorder la parole après quelques secondes, mais le temps aussi que M. Tien Bouchabo puisse réagir à toutes les propositions.
Parole aux auditeurs.
Voilà, en attendant, Sylvain, vous êtes déjà sur, en ligne pour ne puisse pas vous perdre, et puis on va donner la parole à notre invité. Sylvain, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, mais bonjour aussi à Étienne, votre invité, je salue aussi.
Oh, voilà, on vous écoute et puis on va donner la parole à notre invité, Sylvain.
Oui, merci. Je pense qu'il y a question de l'université actuellement pose le premier problème de fonctionnement, et c'est là, c'est le cas de l'enseignement, mais aussi de l'enseignant. Vous posez aujourd'hui la question liée à la carence des professeurs ou enseignants qualifiés. Et puis, je me pose aussi une question avec les auditeurs. Quel est le vrai problème? J'ai l'impression que tout le monde pense que c'est la finance qui est le problème de l'enseignement au Congo. En tant que moi, je pense que l'État de Congo, je dis qu'on est en matière
d'enseignement. Sylvain, on a le problème, essayez oui, d'échanger de position. Là, vous dites que le problème, ce n'est pas tellement les finances. Mais quel est le problème alors? On vous écoute maintenant.
Ah oui, je dirais que pour moi, j'estime que le véritable problème aujourd'hui est de considérer que l'enseignement supérieur universitaire demeure le décollage économique. C'est ça encore le grand problème au niveau des gouvernements congolais. Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que c'est par l'enseignement qu'on peut tout faire, on peut mobiliser aujourd'hui le Congo à se placer partout. Alors aujourd'hui, les assistants qui remplissent les universités transforment finalement les universités à des fours de monstres étudiants. Je pense que cette histoire doit cesser. Je ne voudrais pas les lancer que les gens vont inviter, mais aussi tous les auditeurs qui ont agi avant moi ont déjà été essentiels. Moi, je veux dire ceci. Moi, je sais, par exemple, au niveau de la France, il y a le CRIDEC, le Centre de ressources d'initiative pour le développement et la communication, et la communication, qui organise des différents financements de différents organismes pendant les recherches et les universités. Pourquoi pas les gouvernements congolais? C'est ces gens-là qu'on appelle sur des travaux aussi, ou les DEA, ou les gens qui sont en voie de devenir des professeurs d'université. Pourquoi ils ne peuvent pas chercher des voies à ce qu'ils puissent avoir des fonds? Puisque aujourd'hui, franchement, le gouvernement congolais est démissionnaire en matière de l'enseignement. Votre invité parlait des fonds disponibles pour les chefs de travaux. Mais aussi, je l'ai toujours dit, ça fait 50 ans que l'État congolais a été ségrégationniste en enseignement. On construit le secteur public, mais on néglige le secteur privé. Alors que tous sont des intelligences, des intellectuels, ceux qui sont appelés à modifier les choses. Je pense que le Congo doit se faire avec ça. Je ne vais pas les faire, mais je crois que
votre
invité est là et il va dire l'essentiel.
Voilà, merci. Monsieur Etienne Bouchabo, vous avez suivi les uns et les autres. Hein, en France, le matin, qui a posé un problème de la disponibilisation, surtout des moyens, hein, combien de bourses ont été octroyées pour permettre aux gens d'aller plus loin que ça. Mais le professeur Machiar a posé un problème, c'est le problème de la disponibilité des professeurs en termes de multiples occupations. Là aussi, c'est un véritable problème. Ici, même ceux qui sont déjà là sont beaucoup plus utilisés, ils sont dans beaucoup d'activités à la fois. Est-ce qu'ils peuvent avoir assez de temps aujourd'hui pour consacrer aux enseignements? C'est un problème. Sylvain Debout, je pense que l'État vraiment n'a pas mis assez de, il n'y a pas assez de moyens vraiment qu'on mobilise pour permettre aux gens d'être formés et de remplacer. Et alors qu'on se rend compte que beaucoup de professeurs ont déjà atteint un âge très avancé, et si urgemment il n'y a pas quelque chose qui est fait, on risque d'avoir un problème de remplacement et de relève d'ici là, M. Tien Bouchabo.
Oui, merci pour le souci que ce sont les différents auditeurs pour voir leur enseignement supérieur aller de l'avant. Notre auditeur, notre ami Alphonse, je crois, oui, de Matadi, qui demande à ce que le ministre soit pratique. Mais justement, il devrait plutôt le féliciter. Parce que la pratique dont tu parles, l'argent, ça part d'abord de la volonté. Il faut d'abord manifester la volonté. Et la manifestation de la volonté du ministre ne se limite pas seulement dans le discours ou devant l'Assemblée ou devant la radio, à la télé.
Oui.
il propose des voies et moyens, des solutions pratiques. C'est comme ça qu'il a sollicité de l'Assemblée nationale, donc du Parlement, en inscrivant dans le budget, déjà le budget de l'année passée. Il avait inscrit ce montant et montant pour la relève. Et cette année, il est encore revenu pour que ces montants soient pris en compte de manière à permettre quand même de donner quelque chose à nos doctorants, à nos chefs de travaux qui préparent les thèses. Bon, mais alors c'est ça le être pratique. En dehors de cela, il y a aussi la coopération, n'oublions pas.
Mm-hmm.
Dernièrement, vous avez suivi au niveau de l'université de Kinshasa le matériel que le gouvernement indien a donné pour la télémédecine, même la coopération japonaise, et ainsi de suite. Donc, on essaye de toquer partout. Ceux qui peuvent, les pays amis qui peuvent nous aider, ils le font. Il y a des bourses qu'on octroie, aussi bien aux chefs de travaux ou à assistants et d'autres, que déjà au niveau secondaire, ceux qui terminent. Donc là, c'est au niveau de la coopération. Mais au niveau national, il y a un effort qui est en train d'être fait. Un effort, c'est dans ce sens-là, c'est ce que je dis. Mais l'effort, on ne doit pas le faire vis-à-vis des gens qui ne remplissent pas les conditions. Ça aussi, il faut qu'on se le dise.
Mm-hmm.
Le professeur Maquial a tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça fait des années qu'on ne peut pas occuper de la relève. Et maintenant, pour qu'on s'occupe de cette relève-là, il faut des stratégies, parmi les stratégies, je vous l'ai dit, et ensuite, on encourage les facultés à organiser quand même la soutenance des thèses.
Mm-hmm.
Et nous nous retrouvons aujourd'hui avec des écoles doctorales, des chaires INECO, éparpillées où on ne sait pas très bien ce que ça fait.
Voilà, et j'en profite, mais c'est elle parce que on a que 5 minutes, je ne sais pas, de la fin de l'émission. On a une question d'un auditeur qui a un peu une inquiétude par rapport à l'école doctorale organisée par l'Université Pédagogique Nationale dans plusieurs villes du pays. Il s'inquiète, il dit est-ce qu'il peut s'y engager, il ne peut pas s'y engager. Quel est un peu l'avis du ministère par rapport à ça?
Le ministre a pris une note circulaire, numéro 022, qui suspend, c'est du 28 juillet, qui suspend les écoles doctorales et les chefs UNESCO qui sont disséminés à travers la République.
Mm-hmm.
Donc, il suspend, il n'a pas supprimé, mais il suspend,
voilà.
Dans sa note, je ne veux pas vous lire la note, et je veux quand même qu'on puisse remettre de l'ordre dans ce secteur. Parce que c'est quand même un secteur de l'excellence. Les gens informent les docteurs. Vous avez suivi le prof Mathial tout à l'heure. Ce n'est pas n'importe qui doit se déclarer aujourd'hui formateur des formateurs.
Mm-hmm.
Il faut que les critères soient respectés.
Voilà.
Ceux qui viennent pour suivre cette formation, ils doivent aussi remplir un certain nombre de conditions.
Voilà.
Mm-hmm. Voilà pourquoi le ministre a pris cette décision de pouvoir suspendre et il demande dans cette note, il demande aux chefs d'établissement qui organisent ces écoles doctorales ou ces chefs UNESCO de lui faire rapport de manière assez qu'ensemble on puisse voir comment trouver des solutions, comment améliorer de manière à ce que nous ayons de véritables docteurs demain.
Voilà, et Géry, c'est un auditeur, un dernier auditeur qui est à Bandundu. Géry, vous n'avez que 30 secondes parce que là on termine l'émission. On vous écoute, Géry.
Bon, bonjour.
Bonjour, on vous écoute.
Pour moi, j'ai seulement une petite courte occupation.
Allez,
pour la viabilité des universités.
Uh-huh.
Vraiment, ça me fait de cœur. Le ministre lui-même, il est en train de suspendre les universités et en même temps, les universités naissent comme des champignons.
Uh-huh.
Donc, quand on voit la viabilité des universités, donc, je te dis, le ministre fait absolument rien. Deuxième préoccupation, pour le problème des bourses des étudiants, là on n'a même pas fait à Paris. Bon, le gouvernement a donné des bourses aux étudiants, mais on a donné seulement un mois même voix cette année. On n'a rien donné.
Voilà. Ok, merci Géry. On ne sera pas allé loin parce qu'on n'a que 30 secondes pour vous. Vous posez la question de savoir les cas qui sont devenus les bourses aujourd'hui. Nous remettons la parole à M. Kim Bouchabo parce que là, c'est pour clôturer l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire. On n'a pas assez de temps pour le dire. Mais dans une minute et demie, il y a eu égard à toutes les préoccupations des auditeurs, tous les problèmes posés. On vous donne la parole pour terminer l'émission. Mais sans oublier aussi hein, cette question de savoir quelles sont devenues les bourses qu'on donnait aux étudiants dernièrement pour essayer, oui.
Merci. Pour la bourse, j'ai dit le ministre, lors de son intervention à la clôture de l'année académique à Lubumbashi, il a parlé à la télévision, c'est passé à la radio et à la télévision. Il a donné clairement la position, à quel niveau se trouvent les démarches. Les démarches sont en cours. Les bourses seront payées, mais vous connaissez les difficultés que connaît notre pays en matière, donc en matière d'argent. C'est le ministre, c'est le gouvernement qui avait institué la bourse, ce n'est pas les étudiants, c'est le gouvernement. Donc le gouvernement est conscient, il payera. Quant aux universités qui naissent, notre ami de Bandundu, s'il peut se rappeler que dans le territoire, dans toute la province de Bandundu, il y a encore des amis qui sont encore là, en train de faire ce contrôle de viabilité. C'est à partir de là que le ministre prendra des décisions qui s'imposent. On ne va pas demander de déclarer tel ou tel non viable alors que vous n'y avez jamais mis pied. Donc, je pense qu'il faut qu'il prenne de la patience.
Voilà.
On sache qui fait quoi et quel est l'établissement qui est habilité à donner les enseignements.
Voilà. Merci, monsieur Étienne Bouchabo. En définitive, on retient qu'il y a un travail qui s'est fait encore sur le terrain et après ce travail, tout sera mis en ordre. Merci, monsieur Étienne Bouchabo, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le conseiller juridique du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et nous disons également merci à tous les auditeurs qui nous ont prêté leur attention dans cette émission.
Allô? Mais il ne répond pas?
Ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mercredi à partir des 10h30 avec Marie-Chantal Lumba. Nous allons nous consacrer au calendrier électoral publié, rendu public il y a plus d'une semaine par la commission électorale indépendante fixant les échéances électorales prochaines qui vont aller du mois de novembre 2011 au mois d'août 2013. Quelle est votre réaction face à cette annonce? Soyez nombreux à réagir à pa@radioukapi.net. C'est une poutou, Marie-Chantal Lumba, Nicole Ndaka. La coordination, Guillaume Matundu à la mise en onde. C'est l'équipe qui a produit cette émission. Au revoir et restez en bonne compagnie des Radio Okapi.
Il est 12h.